Chapitre 12. Ainsi qu'un enfant effeuille une rose et jette ses feuilles au vent, le temps effeuille les mois et rejette les jours dans le passé. L'un rapide, joyeux et souriant comme un rêve enchanteur, un autre triste et funèbre comme un lourd cauchemar, un autre enfin sanctifié par les anges, et ce jour est celui où nous avons fait une bonne action. Les jours s'étaient donc écoulés, doux pour Clémence, amers pour Constantia. La mauvaise saison était arrivée et cette tranquille nature avait changé d'aspect. De sombres et épais nuages avaient envahi l'horizon, s'interposant entre le ciel et la terre comme s'interpose l'incrédulité entre Dieu et l'homme. Un calme plat régna pendant un jour entier, comme si les éléments voulaient se préparer à une lutte suprême. La mer se retira, au reflux, tranquille en apparence, laissant à découvert la file de roches noires et aiguës qui bordaient les deux côtés de la plage, comme les dents d'un énorme monstre, tout prêt à dévorer sa proie. Les plantes restaient immobiles sur leurs tiges, les oiseaux voletaient en cherchant un abri. Ce ciel couvert, cette mer orgueilleuse, semblait se regarder comme deux ennemis en présence. Tout se taisait dans la nature, tout gardait ce silence solennel, précurseur de quelque catastrophe. Le jour suivant, un bruit sourd, confus, indéfini, terrifiant, se fit entendre vers le sud. C'était la voix effrayante de la tempête qui s'approchait. Bientôt, l'ouragan éclata et la lutte commença contre les éléments. Le vent soulevait, en hurlant, les flots agités de la mer qui lui répondaient par ses gémissements. Les plantes frémissaient sur le sol, la cime des arbustes s'inclinait jusqu'à terre, des flots de sable volaient dans l'air en dépit de leur poids, les nuages se brisaient et fuyaient en désordre, l'ouragan se déchaînait sur le lourd édifice et, pénétrant en impétueux tourbillon dans la cour, il s'engouffrait dans les palmiers et semblait menacer ces géants d'une chute imminente. Pendant ce choc confus des éléments furieux, les deux cousines, debout près d'une fenêtre, contemplaient, avec un intérêt mêlé de terreur, le spectacle terrible de la mer qui s'avançait, menaçante, s'élançait avec de sourds rugissements et, dans sa fureur aveugle, brisait ses vagues écumantes contre les noirs rochers qu'elle couvrait de ses flots impuissants. « Quel grand et imposant spectacle !» disait Clémentia. « Dis plutôt quel horrible spectacle !» répliqua Constantia. La nuit était venue plus tôt qu'à l'ordinaire. Gertrude entra, chargée de bois pour aviver le feu. « Approchez-vous du feu, mesdames, dit-elle. Le vent s'infiltre par ses croisées et vous devez être gelées. »« Ce spectacle est horrible !» reprit Constantia en s'approchant de la cheminée. « Ce vent qui hurle me fait peur, cette mer m'épouvante, personne ne pourra dormir de la nuit. » « Bah !» répliqua Gertrude, « nous y sommes habitués ici. Tous les ans, à la même époque, c'est le même tintamarre. Ce bruit nous berce au lieu de nous empêcher de dormir. »« Si je le pouvais, je partirais dès ce soir, » ajouta Constantia. « J'éprouve un sentiment d'horreur, mon cœur se serre dans ma poitrine. J'ai peur. »« Peur ? Et de quoi ?» répliqua Gertrude. « Remercions plutôt Dieu qui nous envoie de l'eau dont nous avions si grand besoin. » Ces nuages sont si fantasques que si, de temps en temps, le vent ne les tirait pas de leur léthargie, ils ne bougeraient pas de place. Vous vous effrayez pour bien peu. Allez, allez, il y aura plus de bruit que de mal. On dirait que la mer veut envahir la terre, reprit Constantia. Chacun de ces mugissements ressemble à une menace. Le vent s'apaise un peu, dit Clémence pour la rassurer. « Vois d'ailleurs cette roche pointue qui s'élève sur la terre. Ne semble-t-elle pas un doigt qui dit à la mer « Tu n'iras pas plus loin ?»« Laissez la mer et le vent se débattre ensemble et venez vous coucher, » dit Gertrude. « Je songe aux malheureux qui peuvent se trouver en danger sur la mer, » dit Constantia. « Dieu veillera sur eux, mademoiselle, mais espérons que personne ne se trouve en ce cas. » À ce moment, un bruit sourd et prolongé se fit entendre dans le lointain et interrompit le silence qui avait succédé aux dernières paroles de Gertrude. Ce bruit, passant au-dessus de la ferme avec l'ouragan, vint se perdre dans l'immensité. « Quel est ce bruit étrange ? » exclamèrent à la fois les deux cousines en se levant brusquement. C'est, répondit Gertrude tout émue, une voix sortant d'une bouche de bronze et qui crie « Au secours !» Une bouche de bronze ? Comment ? Quelle bouche ? La bouche d'un canon. D'un canon ? Où peut-il être ? Sur un navire. Jésus-Marie ! Et il appelle au secours ! Oui, parce que ce navire est en perdition. Et ne peut-on lui porter le secours qu'il implore ? Que pourrions-nous faire ? Répondit tristement Gertrude. Et cependant, ajouta-t-elle en tressaillant au bruit d'un nouveau coup de canon, est-il une torture semblable à celle de ne pouvoir répondre à l'appel de quelqu'un qui implore du secours ? Personne ne se coucha de la nuit à la ferme. Quand le jour commença à répandre ses pâles clartés, on put apercevoir sur la plage les cadavres de quelques naufragés que la mer y avait rejetés, tandis qu'au pied des rochers, des débris de la mâture du navire englouti s'élevaient comme une croix placée sur un tombeau. Courons ! S'écria Constantia, chez laquelle la terreur avait développé une sorte d'activité fébrile. « Volons au rivage. Peut-être un de ces malheureux peut-il être encore secouru. » Et, entraînant la tremblante Clémence, toutes deux s'élancèrent vers la plage, où les vagues encore agitées venaient se briser par intervalles. Tous les habitants de la ferme ne tardèrent pas à les suivre, mais, en arrivant, Gertrude trouva Constantia évanouie entre les bras de sa cousine. À ses côtés gisait le cadavre d'un jeune officier, c'était celui de Bruno Vargas. On rapporta Constantia à la ferme et on la mit sur son lit sans qu'elle donnât le moindre signe de vie. Un exprès fut expédié à Séville et les autorités, suivies des habitants des villages voisins, accoururent sur les lieux du sinistre pour constater la perte du navire et rendre les derniers devoirs aux malheureuses victimes du naufrage. Le lendemain, la marquise arriva tout en larmes et si bouleversée par cette terrible catastrophe qu'elle ne voulut pas rester un instant de plus dans ces lieux et se remit immédiatement en route, emmenant l'infortunée Constantia, revenue à elle, mais dont l'état donnait les plus vives inquiétudes. Arrivée à Séville, Constantia parut se ranimer un peu, mais ce fut pour tomber dans d'horribles convulsions, suivies d'une fièvre cérébrale qui la mit aux portes du tombeau. Elle fut administrée, et de ce moment, il se manifesta chez la malade un changement complet. Au physique, le repos succéda à la surexcitation, au moral, le calme à l'agitation. 8 jours après, elle était tout à fait hors de danger, et Clémence pouvait annoncer son arrivée aux habitants de Villa Maria. En réponse, elle reçut l'avis que, le lendemain, le carrosse de son beau-père viendrait la chercher à Séville. « Ma fille, lui dit la marquise en se séparant d'elle, je ne veux pas te laisser partir sans te faire part d'une nouvelle qui, au milieu de tous mes chagrins, m'apporte quelque consolation. Plus sage que sa sœur, Allégrire épouse le marquis de Valdemar. Ma sœur, qui a déshérité Constantia, donne tout son bien à la future marquise. » « Pauvre Constantia, répondit Clémence en ajoutant mentalement, tu n'as trouvé que des déceptions dans ce monde. Puisses-tu chercher ailleurs un dédommagement que Dieu seul peut procurer ?